Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le spécial après-match de la France face à la Belgique. La Belgique qui n'y arrive toujours pas et qui n'y arrive décidément, qui n'y arrivera jamais on dirait. Mais en tout cas pour le plus grand bonheur des Bleus ce soir, les Bleus sont imposés face à la Belgique 2-1 avec une expulsion d'Aurélien Tchouaméni vers la fin. Avec nous autour de la table ce soir, du beau monde. Comment ça va, Philippe ?
Ah, ça va très bien. Les Belges n'ont toujours pas battu.
Donc, toujours pas.
Tout va bien. Et puis, on est pratiquement en quart de finale de Ligue des Nations.
C'est reparti. Tu penses à une deuxième Ligue des Nations ? Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
On peut se lancer ?
Bien sûr. Hein, surtout que, bon, il y aura des quarts de finale à jouer. Puis après, il y aura une phase finale avec quatre équipes. Donc, oui, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire.
Super. En tout cas, on espère.
Ouais, ouais.
Alexandre, comment ça va ?
Ça va super, merci. Comme Philippe, hein, on a battu les petits frères belges, donc ça va très bien.
Comme d'habitude, Lucas, comment ça va ?
Ouais, moi aussi ça va. Content de la victoire, content d'avoir vu un peu de jeu en deuxième mi-temps et content d'avoir vu un doublé de Randal Kolo Muani.
Oui, Randal Kolo Muani, hein, qui on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Randal Kolo Muani qui est maintenant, est-il un titulaire indiscutable à la pointe de l'équipe des Bleus face à la concurrence ? Qui est Marcus Thuram, la plus grosse.
Ah bah là, il y a pas photo hein. Sur le match de ce soir, il y a pas photo pour l'instant. Il a une bonne longueur d'avance sur Marcus Thuram.
Marcus Thuram qui n'a joué que 5 petites minutes hein, oui. Sur ce rassemblement, on le voyait tous titulaire en tout cas lors du deuxième match. Lucas, quelles sont tes impressions toi ?
Je pense que Randal Kolo Muani est beaucoup plus adapté à ce que Deschamps recherche. On voit que techniquement, il arrive à conserver le ballon, il est grand, il a des grands pieds, donc il se débrouille mieux dos au but. Marcus Thuram, j'ai toujours l'impression qu'il n'arrive pas à sortir du rôle qu'il lui a assigné à l'Inter et que quand il doit sortir de ce rôle-là, il est vraiment en difficulté. Et je pense que c'est pour ça que Deschamps continue de donner sa confiance à Kolo Muani. Mais bon, je ne dirais quand même pas qu'il est titulaire indiscutable. Je dis qu'il marque des points, on va dire ça.
Kolo Muani, qui est un couteau suisse un peu, on peut dire ça comme ça. Il peut jouer à droite, il peut des fois jouer à gauche et jouer en attaque. Et en attaque surtout avec son jeu de tête, on l'a bien vu, hein, qui marque encore. C'est un jeu qui peut nous manquer et qui nous a manqué un peu depuis Giroud. Alexandre, toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, pour répondre à ta première question, je sais pas s'il est titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque parce que bon, on attend qu'il fasse ses preuves lors d'une grande compétition ou dans la continuité, voire peut-être... en demi-finale de la Ligue des Champions, etc. De la Ligue des Nations, pardon. Oui. Après, il y a des joueurs, comme on en parlait avec Lucas pendant le match, comme Christopher Nkunku, qui peut être intéressant dans un profil plutôt hybride.
C'est pas le même poste. Hein.
C'est pas le même poste, mais qui peut, je pense, être complémentaire avec des Michael Olise, des Barcola. Et puis Marcus Thuram, bon, c'est vrai que si en tout cas on devait choisir, si je pars à la guerre demain, je préfère prendre Randal Kolo Muani que Marcus Thuram en équipe de France, en tout cas, ça c'est évident. Mais en tout cas, plus globalement, j'étais quand même plutôt satisfait de la composition de départ de Didier Deschamps et de la deuxième mi-temps, mais on a le temps d'en parler.
C'est bien dit, bon, on va y rentrer tout de suite. Hein. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Bleus ce soir ?
J'ai été assez inquiet en première mi-temps. Je trouve qu'on a pris un beau bouillon au début où les Belges arrivaient trop facilement à s'incruster dans la partie de terrain française. À ce moment-là, le pénalty loupé par
Tillmans,
ça a été un des tournants du match, puisque derrière, la France marque tôt et réagit. Je trouve que la France est montée en puissance et qu'il y a une belle deuxième mi-temps. On a vu du mouvement, on a vu au moins des attaques. Ça change de l'équipe un peu soporifique qu'on a vu à l'Euro.
Et toi, ouais, je suis entièrement d'accord. C'est deux mi-temps complètement différentes. Une première mi-temps où on a pris l'eau. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que les Belges n'ont pas pu concrétiser leur pénalty. Après, nous, on a marqué. Ça a commencé à être un tout petit peu mieux. Et puis la deuxième mi-temps, bah ouais, effectivement, le secteur offensif qu'on avait beaucoup, beaucoup décrié pendant 7 euros, bah, il a montré ce soir qu'il était de qualité.
Voilà. Bah, on l'a vu surtout avec un absent de taille, hein, Kylian Mbappé, qui est absent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alexandre, de la performance de tous les Bleus et même de Didier Deschamps avec son coaching,
maintenant de ce soir en tout cas.
Si on se concentre que sur ce soir. Non, mais si on se concentre que sur ce soir, c'est plutôt on a tous eu à peu près la même vision du match, on a tous vu le même match. Oui. Au départ, la France se faisait beaucoup prendre dans la profondeur, une mauvaise gestion avec comment il s'appelle ? Trossard qui partait beaucoup dans le dos de la défense. Et donc oui, beaucoup d'occasions pour les Belges au départ, enfin de situations en tout cas pour les Belges au départ. Puis ensuite le pénalty manqué d'Youri Tielemans qui là a marqué un tournant. Meilleure fin de première de la part des Bleus, avec un milieu de terrain qui a pu mettre un peu le pied sur le ballon, à l'image de Manu Koné qui je trouve a fait un plutôt bon match. Et en deuxième mi-temps, pas trop eu de difficultés pour l'équipe de France avec le but de Colomoigny qui vient asseoir la domination. Et puis sur la fin, bon après ça c'est normal parce que la Belgique perd, donc forcément elle pousse pour marquer. Mais sinon, match pas non plus... Bon, McMaignan qui sort quand même 2-3 arrêts assez importants, mais sinon pas non plus une grande inquiétude de la part des Bleus, parce que la Belgique, bon, un peu compliqué quand même, hein. C'est pas un adversaire très, très relevé non plus.
Oui, c'est pas un adversaire très relevé, mais en vue de ses dernières performances, comme on le voyait...
Oui, c'est vrai.
C'est quand même une équipe, même s'il leur manque aussi le leader de l'attaque, Kevin De Bruyne, voilà, l'organisateur un peu, ça a quand même bien joué. En tout cas, dans le jeu, ils ont bien joué ce soir, la Belge.
Et c'est surtout qu'ils veulent nous battre, quoi. Ils n'ont toujours pas battu depuis...
Oui, c'est ça aussi. Hein.
Je crois que la dernière défaite de l'équipe de France contre la Belgique, c'est 3-2. C'était au Stade de France, en match amical. 4-3. 4-3, pardon. Ouais. 4-3. En match amical. Donc
avec Paul Georges Ntep,
oui,
qui marque un but
en 2015,
à la fin.
Je crois. Donc, tu vois, un truc comme ça. Donc, les pauvres Belges, dans toutes les grandes compétitions, on les bat. Je crois que c'est surtout ça, quoi.
Oui, c'est vraiment la bête noire.
Toujours là. Hein. Toujours là, en travers. À l'Euro, là, sur les deux matchs de Ligue des Nations, la Coupe du Monde, naturellement. Oui, c'est
très dur pour eux.
Oui,
ils vont faire des cauchemars. Oui. On les plaint, nos amis belges.
Parce qu'on a vu aussi, on en a parlé, qu'au début du match, ils arrivaient bien à trouver les joueurs qui étaient démarqués dans la profondeur ou qui se mettaient entre les lignes. On a vu plusieurs fois Trossard jouer en première intention. Et là, après, dans le dos des défenseurs, ça allait très, très vite. Et la France a réussi petit à petit à régler ce problème. Je trouve que Manu Koné, notamment, il est bien monté en puissance parce que sa première mi-temps, elle n'est pas suffisante. Mais la deuxième, il a été vraiment bon. Donc... ils avaient les solutions et ils n'ont pas réussi à nous battre, donc courage aux Belges. Hein.
C'est toute l'équipe de France qui n'a pas été bonne en première mi-temps, ils sont tous passés un peu à travers. En deuxième mi-temps, ils sont tous revenus, je pense à Saliba un peu, qui était passé outre en première mi-temps, qui revient bien en deuxième mi-temps, qui a sauvé quelques petits ballons, surtout vers la fin. Plusieurs joueurs qui ont fait leur comeback un peu. Didier Deschamps a dû avoir un bon discours à la mi-temps pour remanier ses troupes. Pour toi, Alexandre, qui a été le meilleur joueur? Qui a été le plus bon joueur de l'équipe de France ce soir?
De l'équipe de France, Randal Kolo Muani, forcément, parce qu'il il double. Ouais. C'est toujours important d'avoir un joueur qui peut planter dans ce genre de match. Donc forcément, je le mettrai en numéro 1. Et après, comme j'ai cité, je peux mettre Manu Koné qui au milieu de terrain, parce qu'il y a eu Kamavinga qui est rentré, mais sinon c'était et Youssouf Fofana qui sont rentrés. Mais sinon, c'est Tchouaméni et Guendouzi qui étaient là. Guendouzi un peu en dessous. Mais Manu Koné. Et puis je peux mettre facilement Saliba, comme tu l'as dit, ou Mike Maignan qui a fait un match sérieux. Mais voilà, Randal Kolo Muani en top 1, forcément.
Ouais, c'est l'homme du match, hein, Kolo Muani pour l'équipe de France. Et puis effectivement, Koné. Hein. Et puis même après l'attaque dans son ensemble. Barcola qui a été un petit peu remué aussi. Donc voilà, c'est bien. Secteur offensif qu'on avait beaucoup décrié pendant l'Euro, là, en deuxième mi-temps. Voilà, il a répondu présent. Et puis la défense derrière Saliba une nouvelle fois. Quand ça a été un peu mieux.
Oui, c'est vrai. Et Dembélé aussi qui a créé quelques occasions, mais
offensif,
qui n'a pas réussi à concrétiser. On repense à l'action vraiment. Comme très souvent, mais ces derniers temps, ça va un peu mieux quand même. Ouais. Et toi, Lucas, qui a été ton meilleur joueur ce soir?
Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je mettrais d'abord Kolo Muani et Mike Maignan. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut s'attarder sur Dembélé parce que je trouve que toute l'équipe est globalement montée en puissance. Je parlais de Manu Koné, mais Barcola aussi, on a vu à partir du moment où il fait son super contrôle dans la course, qui va éliminer, qui frappe, bon, il n'y a pas de but, mais voilà, il montre que sur une action, il peut marquer, donc déjà ça met... c'est bien de montrer qu'on est dangereux. Et effectivement, Dembélé qui donne beaucoup de bons ballons quand même. Certes, il rate encore beaucoup de choses, mais il y a l'action où Guendouzi finit par ne pas tirer, je sais pas. Il fait une super passe, Dembélé a été très très remuant, et ça a permis, je pense, de faire perdre confiance aux Belges et permis aux Français d'asseoir leur domination.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de Aurélien Tchouaméni, le nouveau capitaine des Bleus ce soir, qui s'est sacrifié un peu plus ou moins, parce que c'était une action, moi je pense que ça allait au bout, en tout cas c'était un one-one, il s'est un peu sacrifié pour son équipe en tant que bon capitaine, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance?
Il s'est sacrifié, mais enfin c'est pas le meilleur des Tchouaméni qu'on a pour l'instant. On a connu un Tchouaméni beaucoup plus inspiré dans le passé.
Et toi, Alexandre?
Je suis d'accord avec Philippe. Bon, après, dans l'ensemble, il fait un rassemblement sérieux. Contre Israël, c'était un match plutôt simple. Donc heureusement qu'il a répondu présent. Mais voilà, après, il y a les leaders du vestiaire et les capitaines, c'est toujours différent. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus vu un Tchouaméni transformé parce qu'il avait le brassard de capitaine. Je pense que ça n'a pas changé non plus grand-chose dans l'équilibre de l'équipe et dans l'esprit de l'équipe. Et puis voilà, il s'est sacrifié. Bon, il a voulu un peu l'éviter. Malheureusement, il l'a pris.
Tu penses qu'il a voulu l'éviter?
Oui, il fait un
petit
geste.
Oui, il fait un petit geste, comment il arrive à fond sur lui?
Oui,
c'est
après,
difficile de défendre là-dessus aussi.
Hein. Ouais, c'est très difficile de défendre là-dessus.
Il n'y a pas d'incidence sur la rencontre, mais Deschamps, on l'avait vu, au final, il voulait peut-être faire rentrer des joueurs offensifs, au final, il refait rentrer...
Bah, ça l'a aidé, Deschamps, comme ça. Il a été encore plus défensif.
Comme ça, il ne pourra pas dire...
ça l'a aidé
oui,
encore.
Bien sûr. Ouais. Mais voilà, Tchouaméni qui fait un rassemblement sérieux. Après, on est loin du Tchouaméni de Monaco.
Ouais, je pense que sa blessure lui a quand même beaucoup joué. Hein. La longue période qu'il a eu d'indisponibilité, je pense que depuis, on n'a pas retrouvé le grand Tchouaméni.
Ça reste sérieux, mais il prend moins d'initiatives. Ouais. Et effectivement, il sort moins du lot.
C'est scolaire, c'est très scolaire.
Je pense que vous avez résumé en grande partie Aurélien Tchouaméni, en tout cas de sa performance de ce soir. Moi, j'ai été déçu un peu de ne pas voir Kamavinga titulaire ce soir.
Pareil, j'aurais aimé qu'il soit à la place de Tchouaméni, Kamavinga.
À la place de Tchouaméni?
Oui, parce que j'étais content de voir Guendouzi pour voir un peu ce que ça pouvait être différent, je veux dire. Parce que Manu Koné et Guendouzi, je voulais voir un peu la complémentarité qu'ils avaient et je pense que ça pouvait bien fonctionner. Et j'ai vu Tchouaméni, j'aurais bien aimé voir Kamavinga parce que c'est le genre de profil, je pense qu'à 3, ils peuvent conserver le ballon.
Excuse-moi de t'interrompre, pour moi, Koné, c'est un peu le même profil que Kamavinga.
Il est plus mobile
que Kamavinga.
Comment
Kamavinga, il est plus mobile, comme il va plus avaler les kilomètres, aller au duel, etc.
Défensivement, t'as une meilleure assise défensive avec Manu Koné, je pense. Après, oui, je vois ce que tu veux dire, un peu dans le côté un peu foufou, qui touche le ballon.
Voilà, pour moi, si tu mets Manu Koné, tu peux pas mettre Kamavinga. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Après. Je demande à voir, mais pour moi, tu ne peux pas mettre les deux alignés. C'est risqué. C'est très risqué, je pense.
Et je pense que c'est le choix qu'avait fait Deschamps, c'est ça. Ouais, de ne pas mettre les deux en même temps. Ouais.
Tchouaméni, c'est la sécurité. On a mis en exergue ses défauts et son manque d'initiative, mais ça reste quand même défensivement solide. Et c'est la sûreté, quoi. C'est la sécurité, Tchouaméni.
On voit comment il fait. Hein. Il s'aligne souvent aux défenseurs centraux. Il redescend pour distribuer des longs ballons ou essayer de défendre en tout cas au plus bas et monter un peu avec le ballon. On l'a vu plusieurs fois ce soir. Loïs Openda qui ouvre son compteur depuis un certain temps. Hein. Je n'ai même pas la dernière fois qu'il a marqué avec la Belgique, mais c'était depuis un certain temps. Ça nous pendait un peu au nez hein, ce soir. Loïs Openda, les Belges, moi je pense qu'en termes de performance, la Belgique ont fait... La première mi-temps, ils ont clairement été au-dessus. Et la deuxième mi-temps, je pense, c'était un peu plus équilibré.
Oh non, ils ont même été dominés en deuxième mi-temps, les Belges. Hein. Ils ont quand même subi davantage. Après, bon, le fait qu'ils reviennent au score, c'est pas immérité sur la première mi-temps, hein, surtout sur leur entame de match. Après, bon, c'est pas l'équipe de Belgique qu'on a connue en 2018 quand même. Hein. C'est pas... Voilà, okay, cette génération plutôt brillante qui est malheureusement passé à côté de tous ces grands rendez-vous. Et je pense que, bon, ça reste... Moi, la Belgique, maintenant, ça reste une équipe moyenne.
Une équipe de seconde zone pour toi.
Peut-être pas seconde zone, mais enfin, équipe moyenne, quoi. Ouais,
en reconstruction, il faudra des années pour...
Un mini-vide générationnel, pour pas dire
c'est
un
grand vide générationnel.
Un petit vide générationnel.
Ouais. Parce que ça arrive vite, on voit quand même ce que fait Malik Fofana à Lyon. Dans un ou deux ans, ça peut être très solide. Bakayoko au PSV Eindhoven, pareil, avec Doku, Openda.
Ils ont raté le coche,
Là, avec l'absence de Lukaku aussi.
En plus,
l'absence de Lukaku qui joue bien à Naples hein, pour l'instant, qui est sur des très belles performances à Naples.
Ouais. Avec Antonio Conte, ça va marcher de toute façon. Ils se connaissent les deux.
On est très loin de la Belgique d'avant avec où il y avait Lukaku titulaire et mais Batshuayi et Origi derrière.
Hazard, Mertens.
On peut tous les citer, je veux dire. Le remplaçant, le backup, c'est Luke Bakio. Donc, c'est plus compliqué, quoi. Franchement, c'est compliqué.
On va se faire une petite virgule avant de revenir sur le cas Kylian Mbappé. On va rentrer dans le vif du sujet encore une fois. Hein. Kylian Mbappé qui va faire la fête en Suède pendant que l'équipe de France sont en rassemblement. Kylian Mbappé qui dit qu'il est blessé, qui joue 70 minutes avec le Real Madrid. Ça en fait beaucoup avec la dernière actu qu'on a eue encore aujourd'hui, la petite bombe où on dit que Kylian Mbappé ou l'un de ses proches, il y a eu un viol en tout cas dans son hôtel. Oui, il y a eu un viol dans son hôtel où il était là-bas. Il a directement contesté les faits, il a mis fake news et il a mis comme de par hasard la veille avant l'audience. Avec le Paris Saint-Germain. Il fait référence l'audience avec le Paris Saint-Germain.
Pour les 55 millions de
salaires. Exactement. Et voilà. Et c'est ce qui s'est dit, en tout cas. Beaucoup de choses s'est dites ces derniers jours. Et ça monte beaucoup en pression. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre ?
Déjà,
on va commencer tout doux juste déjà avec Kylian Mbappé qui vient pas et qui, en fait, qui fait la fête en Suède et qui vient pas.
J'ai beaucoup de choses à dire sur cet événement, mais on va commencer tout doux. À l'instar de Lucas et de Philippe, pour moi c'est un événement, c'est même assez important parce que tu appelles Deschamps et tu lui dis vous convenez sur le fait que tu préfères rester à Madrid parce que tu reviens de blessure ou parce que tu préfères te reposer, tu es fatigué, t'es sorti blessé, etc. Deschamps parle en conférence de presse, s'explique, et ensuite tu rentres au match de Lille, tu joues 70 minutes contre Villarreal, Deschamps il essaie de se dépatauger avec la presse, et il y a cette histoire de retraite de Griezmann qui intervient deux ou trois semaines avant, le capitana encore
une semaine, dix jours.
Le capitana, ça c'était encore avant. Donc quand tu as le capitana, c'est-à-dire que tu veux être le leader, que tu veux être la personne sur qui tout le monde passe sur le terrain et même en dehors, l'image de l'équipe de France, tu veux que ce soit toi. Et au final, tu te mets d'accord avec Deschamps pour ne pas venir. Ensuite, tu joues avec le Real alors que tu es censé être blessé. Et le soir même, parce que ça aurait pu être le soir d'avant, ça aurait pu être le soir d'après, mais en même temps que l'équipe de France joue contre Israël, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas en boîte de nuit.
Moi, il n'est pas obligé de rester sur son canapé à regarder le foot. Il a une vie quand même.
Et en plus de ça, tu mets dans ta story Instagram, allez les gars, juste avant le match.
Bah d'accord. Oui, je suis de loin, c'est le capitaine.
Ouais. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a un contexte derrière. C'est que si c'était je ne sais qui s'accorde avec Deschamps pour ne pas venir, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un contexte qui est énorme, c'est-à-dire que Deschamps, en fait, il passe pour un abruti de A à Z, il n'y a aucune communication.
Pour quelqu'un qui s'est fait un petit peu berner, pas forcément pour un abruti.
Non, même pas qu'il s'est fait berner, hein, puisque les choses ont été dites clairement entre les deux parties, et il dit qu'il n'a aucun problème avec Kylian Mbappé.
Contre Villarreal, je pense qu'il a quand même fait la tête déjà.
Bien sûr,
quand il avait titulaire contre Villarreal, je pense qu'il était là.
Bien sûr, Philippe, Lucas, vous avez joué au foot quand même.
Oui, absolument, ouais.
Vous n'avez pas joué à un très grand niveau comme
non,
moi.
Non, on n'a pas joué du niveau
vous voyez que à chaque fois qu'il y avait un joueur qui avait un passe-droit plus que les autres,
ça passe mal avec
ça
le
passe reste mal. Et il y a la communication des joueurs qui disent oui, on s'en fiche, il fait ce qu'il veut, etc. On le soutient 100%. Mais moi je sais que ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible. C'est inconcevable que Griezmann prenne sa retraite juste avant, que Mbappé il fait ce qu'il veut, il dit à Deschamps oui je joue pas, je viens pas, au final il joue avec Madrid, et vous pensez que les joueurs ils sont bien dans le vestiaire, ils se disent pas Deschamps, il va à contresens dans tout ce qu'il a voulu instaurer depuis le départ.
Après, je vais te dire, les joueurs le font tous, pendant leur jour de repos quand ils ont 4-5 jours, ils partent tous quelque part. Là, Madrid.
Mais t'es censé te blesser, Philippe.
Madrid, Stockholm, c'est combien? Une heure et demie d'avion?
Deux heures. Si c'est deux, trois, pas
deux,
beaucoup,
ouais. Deux heures. Il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a rien. C'est comme si tu allais prendre ta voiture et tu allais à Châteauroux. Donc, bon, voilà. Mais tu es allé au resto, la boîte de nuit. Et
juste après, tu vas à Ajaccio.
Il en est peut-être sorti. Oui, alors. Il en est peut-être sorti à 1h du matin.
Bon, il est sorti beaucoup plus tôt dans la matinée, hein, vers 5h du matin. Oui. Non, okay. Il a fait la fête. Bon, voilà. Quoi, il a vraiment fait
tous,
la fête. Quoi.
Ils le font tous, malheureusement. Voilà.
Oui, mais il y a des moments pour le faire. Moi, je vois ce qu'Alexandre me dit. Il y a des moments pour le faire. Là, maintenant, excusez-moi de mettre le sujet sur la table. Excusez-moi de mettre le sujet sur la table, mais il est capitaine.
Oui.
Le vice-capitaine prend sa retraite.
Oui, bon, moi, ça...
Déjà, il
c'est
ne
fait envisager d'accord. Pire moment.
Déjà, il ne vient pas. Il ne vient pas avec les Bleus. Pour moi, en tant que capitaine, tu es capitaine des Bleus, tu es
d'accord.
Blessé. Même si tu es blessé, tu dois faire acte de présence. Même dans le groupe. Pour moi, même dans le groupe, il aurait pu être dans le groupe.
Mais
ne pas.
Plus.
Oui.
Mais
vu ce qu'il a fait, il aurait pu.
Il aurait pu. Il est allé au Brésil pour montrer,
pour constater sa blessure.
Il y en a quelques-uns.
Oui, Cherki l'a fait aussi avec l'espoir. Avec l'espoir, ils le font. Vinicius l'a fait aussi, ils le font.
Mbappé, c'est Mbappé.
Oui, mais.
Il est...
okay, mais t'es capitaine. Là, okay. Mbappé, non, mais t'es capitaine. Tu es capitaine. Tu as des devoirs en tant que capitaine.
Mbappé,
pour moi,
c'est Mbappé, d'accord.
Je dis pas que c'est une bonne chose.
C'est
mon constat. Effectivement, vous avez un peu développé les éléments et la suite en fait, chronologique, elle est terrible. Avec ce qui se passait avec Griezmann. D'abord, avant, il y a quelques mois, le débat un peu houleux sur le capitanat. On sait que ça va pas fort, de toute façon, ce que tu dis, c'est sorti dans l'équipe, hein. Il y a eu des réactions un peu, au moins, de l'incompréhension de la part du groupe par rapport au traitement que Deschamps, voilà, les passes droits qu'il laissait à Mbappé. Mais en soi, je veux dire, comme a dit Philippe, tous les joueurs le font. Franchement, je trouve qu'on joue beaucoup au naïf cette histoire. Les joueurs ont l'habitude de faire la moitié de l'Europe pour aller faire des soirées. Oui. Ils ont l'habitude, dans ces cas-là, quand ils sont blessés, d'aller se changer les idées. Il y a aussi quelque chose de mental.
Mais non, mais Lucas, là, c'est pas le même contexte. Tu ne peux pas prendre des joueurs qui ne sont pas capitaines d'une équipe nationale. Bien on sûr. Parle quand même d'une équipe nationale, l'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde. On parle quand même de ça. Là, faut pas minimiser les choses. C'est pas, je sais pas, moi, un joueur de seconde jaune qui joue avec son pays, qui est appelé de temps en temps et qui dit bon là je suis pas appelé, je suis blessé et je vais faire la fête.
Voilà, là t'es capitaine.
J'entends bien.
Et
j'entends
le soir
bien.
Du match, le soir même, tu regardes même pas ton équipe.
Attends, je vais te dire, les joueurs de foot pro ne regardent pas forcément les matchs.
Oui.
Les joueurs sont tellement dans le
mais
milieu du
communication
foot qui regardent pas forcément les matchs.
Mais c'est que alors ils peuvent envoyer un triplé, on oublie tout.
Il peut envoyer un triplé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de triplé de Kylian Mbappé de France.
Moi, c'est plus ça en fait.
Avec ses dernières performances, en plus, il a été décrié ces derniers temps. Parce que même le fait que Antoine Griezmann prenne sa retraite, il y en a qui disent que c'est à cause de Kylian Mbappé parce que il a repris le capitanat. Non, mais en gros, il y a beaucoup de choses autour de lui. C'est des éléments qui sont beaucoup autour.
Non, c'est quelqu'un qui est intellectuellement très honnête, Griezmann. Et je pense qu'il a vu.
Il a pu être blessé quand même. Ça. Tu peux être honnête,
peut-être un peu, mais je pense
que
c'est pas maintenant. Ça aurait été il y a donc un an quand il y avait le brassard.
Non, moi je pense qu'il aurait dû attendre un peu. Moi, il a vu que ça passait pas.
Moi je vais te dire, je vais te dire, Griezmann il va peut-être revenir.
C'est possible.
Oui, il pourrait faire un tour. On en parlait.
Mais pourquoi
tout à
alors
il pourrait
raison de plus. Mais raison de plus. Donc alors c'est pas les performances. On sait bien que c'est mental.
Bah, si.
Il y a quand même
ça, on peut en parler.
Il est quand même moins bon, Griezmann, depuis un an.
Oui, bah, oui depuis
donc,
le capitanat.
Intellectuellement,
oui,
mais Mbappé,
il est pas heureux depuis le capitanat.
Intellectuellement, il le sait. Il s'est peut-être dit, lui, comme il est donc quelqu'un intellectuellement très, très honnête, il s'est dit bah,
très sensible aussi.
Oui, pour l'instant, je vais attendre. Et puis, ça se trouve, dans un an, peut-être que l'ennui lui reviendra. Peut-être que Deschamps le sollicitera. Comme ça, c'était fait pour Zidane, hein, qui avait eu le même état d'esprit après l'Euro contre la Grèce.
L'Euro 2004, hein.
Ouais. Et puis, il était revenu. Donc,
c'était pas pareil.
En fait, c'était pareil.
Non, mais Philippe, je pense que
c'était une génération qui était passée à travers.
Trop d'éléments. Tous les éléments qui sont à prendre en compte. Deschamps, sa communication depuis qu'il a pris l'équipe de France, c'est il faut faire passer le groupe avant tout.
Oui.
Là, tu as Griezmann. Après, on va pas refaire le débat du capitanat, mais tu as Griezmann qui est un gars qui a tout donné, qui faisait des performances extraordinaires, qui fermait sa bouche, qui était un leader dans le vestiaire, qui allait tout le temps dans le sens de Deschamps dans la communication. Là, tu vois que OK,
je
il est moins bon.
Je pense pas que ce soit ça qui fait.
Mais OK, il est OK, il est moins bon. Mais le gars, il se fait sortir à l'Euro à chaque fois. Il sortait à la 70e. À l'Euro, à chaque fois, il sortait à la 70e. Mbappé, il était mauvais.
Il a même été remplaçant
tout le match. Il a été remplaçant à la finale de la Coupe du Monde. Il sort aussi à la 70e, alors que toute l'équipe est mauvaise. Moi, mais je suis Griezmann, mais au bout d'un moment. J'en ai marre.
C'est bien connu que c'est difficile de sortir des très grands joueurs. Bah je ne suis pas sûr que quand Zidane ou Platini étaient mauvais, c'était facile pour les entraîneurs de les sortir. Combien de fois Laurent Blanc n'a pas sorti Ibrahimovic, même s'il était un petit peu moins bon.
Mais oui, hein, mais peu importe.
De fois non, mais c'est bien connu que voilà.
En fait, sur Mbappé, est-ce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il est encore totalement dans ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'on a connu Mbappé très très jeune, qui voulait devenir une légende de son sport, qui parlait comme un passionné du foot. J'ai quand même l'impression que depuis 1 à 2 ans, il y a une espèce de décompression mentale qu'il arrive plus à trouver de challenge qui le stimule vraiment. On pensait que l'arrivée au Real, ça l'aiderait, mais je pense qu'il a du mal. Et je ne sais pas dans quelle fraîcheur mentale est Kylian Mbappé. Donc je pense que le fait de partir en Suède, de rater des sélections, c'est aussi une façon de se préserver. Oui. Parce qu'il l'avait dit, tout à l'heure, on parlait du débat par rapport au nombre de matchs. Kylian Mbappé, c'est le premier qui a dit mettez plus de matchs, il n'y a pas de souci, sauf que nous, les joueurs, on fera comme on peut. Et pour moi, là, il fait comme il peut. Il n'arrive pas à suivre la cadence. Peut-être qu'il est fatigué.
Oui, puis c'est un accord avec Deschamps,
mentalement. Et je pense qu'il n'arrive pas à suivre la cadence et ses propres objectifs. Et je pense qu'il y a un petit souci mental avec Mbappé.
Mais c'est évident, mais ça, c'est parce que ça, déjà, il est très mal entouré. Il est très mal entouré, c'est vrai.
C'est nous qui le jugeons.
C'est pas ce que tout le monde dit, au contraire.
Mais
la com pour l'instant était parfaite.
Non, mais non.
Jusqu'à peut-être.
Ça fait un moment que la com de Mbappé est trop lisse.
Elle est atroce. Déjà, je fais une aparté. Après, ça, c'est que mon avis, mais comme par hasard, il loupe ce rassemblement. Après, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais il loupe ce rassemblement parce que peut-être qu'il sait très bien qu'il y a des enjeux au-dessus et que voilà.
Tu parles d'enjeux géopolitiques ?
Par
rapport à France-Israël, en l'occurrence, il y a eu très très peu de questions par rapport
à... On ne sait pas, en tout cas, il y en a beaucoup qui pensent. En tout cas, il y en a beaucoup qui pensent. On a vu aussi la story de Kylian Mbappé qui a mis la composition, que la composition de l'équipe de France, en ne regardant même pas contre qui il joue ou quoi que ce soit. En tout cas, ça n'était pas affiché dans le poste qu'il a mis. Et là, par exemple, ce soir, il a mis la photo Belgique-France. On voit, en tout cas, il a mis une photo de la télé Belgique-France qui sont en train de jouer. Non, mais vous voyez, on peut chanter jusqu'au... C'est des petits
On peut interpréter plein de trucs. Ce serait quand même le soutien à la cause palestinienne le moins courageux qu'on ait eu de tous.
Ah oui.
Franchement, si c'est un soutien et une bouderie pour apporter son soutien à la cause palestinienne, franchement, fois, la com, elle est catastrophique.
Non, mais au contraire, c'est justement, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas se mouiller.
Parce qu'il veut pas, je pense qu'il veut pas, comment dire, être un personnage clivant, il veut rester très parce important, rassembleur, etc. Donc, il veut pas
tu sais que même s'il joue, il y en a qui peuvent lui en vouloir, ou lui envoyer des messages de haine.
Qu'il ne joue pas non plus aussi dans ces cas-là. C'est un personnage public, il va être critiqué, donc il faut qu'il arrête de vouloir plaire à tout le monde, qu'il se ressente sur son foot et qu'il joue parce que là, ça fait 5 minutes qu'on est sur lui, on parle même pas de foot.
Justement,
c'est une catastrophe pour lui. Pour un des meilleurs joueurs du monde, qu'on en soit autant à analyser sa vie privée et qu'on mette autant ses performances au second plan, je pense que c'est ce qu'on fait là aussi. C'est un peu un désaveu en fait.
Mais parce qu'il y a un problème au départ. Tu vois, les joueurs, quand on commence à parler de leur vie privée, en fait, je suis pas trop adepte des fois de parler tout le temps de la vie privée des joueurs, mais c'est juste que quand ça déteint sur les performances,
évidemment.
Moi, ce que je te disais tout à l'heure, les éloges, tu les prends. Quand on scande ton nom, quand tous les médias ils sont dithyrambiques sur toi, quand ton coach il est dithyrambique, tu les prends les éloges, tu les prends bien, tu prends les produits marketing, tu prends tout. Donc au bout d'un moment, quand tu fais n'importe quoi sur le terrain, faut prendre les critiques. Et quand ton hygiène de vie elle est très mauvaise, il faut prendre les critiques, il faut les accepter aussi. Surtout quand t'es une image auprès de la jeunesse, quand t'es une image auprès des gens. Et c'est ça, c'est ce qu'il voulait véhiculer depuis le départ.
Totalement.
L'image du sportif parfait, qui maîtrise toute sa
com.
Manger bien, dormir bien.
Son hygiène de vie, elle est mauvaise à Mbappé?
Apparemment, oui.
Est-ce
qu'il est sorti un soir? Est-ce que son hygiène de vie?
Non, il est sorti plusieurs fois ces derniers temps. Je veux pas citer le nom, mais il y a quelqu'un qui disait sur un plateau qu'il avait des infos sûres et que plusieurs fois Kylian Mbappé sortait en boîte ces derniers temps.
Il sortait jamais en boîte de nuit avant.
Avant, mais maintenant, apparemment, il sort beaucoup plus. Apparemment,
c'est un jeune homme qui profite
plus
de la vie. Après, on peut pas lui en vouloir.
Mais c'est justement.
C'est en contradiction avec son discours, c'est ça que tu veux dire?
Mais non, mais c'est qu'on peut pas lui en vouloir, d'accord. Mais si tu fais des performances cataclysmiques, eh ben, accepte la critique.
Effectivement.
Après, donc là, moi, je suis en train de te critiquer parce que t'es nul. Tu vois, savez... si tu mettais des triplés, moi, je serais. Enfin, façon de parler, bien évidemment. Mais si tu faisais des bonnes performances durant les matchs, eh ben, moi, je serais très content. Moi, je serais là. Ok, il a une mauvaise hygiène de vie, mais force est de constater que le gars est très fort. Mais si, en 2012, le mec, il mangeait des burgers, il faisait des barbecues tout le temps, il a mis 91 buts en une année civile, qui a dit quoi ? Personne.
En fait, c'est un peu différent.
Comme Neymar, on voit, dès que ses performances ne sont pas bonnes, on voit ce qu'on fait. Cristiano Ronaldo, vous avez vu Cristiano Ronaldo, il a choisi une optique de vie où il s'accorde. Jamais t'entendras Cristiano Ronaldo est sorti en boîte après ou son équipe nationale parce qu'il s'est accordé une image où il s'est dit je vais
Ronaldo. Non, plus maintenant. Ah non, avant plus maintenant.
Ah, oui, avant il y allait, mais il s'est créé son image quoi.
Pas n'importe quoi, on peut quand même reconnaître que par rapport à son alimentation, à son repos, etc. Cristiano Ronaldo, il a une éthique de travail qui est totalement concentrée vers l'excellence.
Mbappé, il a peut-être 3-4 jours de repos. Bon, bah voilà, il sort une soirée. Bon,
même
voilà.
Sans aller jusque-là. Mbappé, on en parlait. Si on parle vraiment d'un relâchement mental, Mbappé, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure.
C'est tous les soirs.
Il y a deux présidents de la République qui l'ont appelé pour qu'il reste au PSG. Oui. C'est une des personnalités les plus médiatiques de France. Mmh. Il a joué au PSG pendant 6 ans et je pense que ça l'a bien fatigué. 7 ans, ça l'a bien fatigué. Mmh. Et donc voilà, je pense qu'il y a une. Oui, je pense qu'il a du mal à s'y retrouver mentalement, Mbappé. Ça n'excuse pas le fait qu'il soit parti en Suède plutôt qu'honorer sa sélection.
Mais Lucas,
mais y a des problèmes qui sont pour moi plus, comment dire, à plus long terme que ce petit incident-là qui n'est pas si intéressant que ça.
Mais Lucas, à ce moment-là, là, tu as tout dit. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es Kylian Mbappé? Si tu aimes le foot, tu fais le vide à l'extérieur de toi.
C'est facile à dire.
C'est facile à dire. Non, attends, attends.
Critiquons mais, et tu dans sa situation.
Mais non, essaies de te concentrer sur le football. Tu fais pas une. Mais attendez, parce que je crois que
est-ce qu'il aime autant le foot qu'avant?
Le mec il fait des stories, il fait des déclarations avant le rassemblement de l'équipe de France. Il fait des déclarations. Ok, c'est le moment de me concentrer sur mon physique, de reprendre une bonne préparation avec Pintus. Et là, tu le vois à Stockholm. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu te recentres sur ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire jouer au foot. Tu vas pas être là à déposer des trucs pour ton image, à réclamer des salaires alors que c'est encore
Work
différent. Mais...
Ça c'est normal. Ça c'est normal.
Oui, c'est normal à moitié parce qu'il s'était aussi engagé auprès de Nasser Al-Khelaïfi.
Ça on sait pas. Et comment vous voyez, excuse-moi de t'interrompre, Alexandre. Comment vous voyez cet affrontement un peu avec le Paris Saint-Germain et là qui remet encore une couche
il a raison.
Oui, non, sur les faits.
Salarié, t'as un contrat, tu le lui dois.
Philippe, sur les faits, mais par exemple, là, qui sortent en boîte, qui a cette histoire de agression.
Il n'est plus salarié.
Oui, mais qu'il y a cette affaire d'agression sexuelle et qu'il accuse encore.
Ça, c'est à vérifier. Oui. Ça, faut voir.
Non, il a démenti. Il y a eu dans cet hôtel. Mais lui, il a démenti qu'il n'était pas à l'intérieur, ni de près, ni de loin.
Oui, on sait qu'il a été aussi suivi sur les réseaux sociaux quand on était au Paris Saint-Germain, qui a voulu le discriminer. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention.
Là, c'est ce qu'il a voulu faire. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il a sous-entendu encore face au Paris Saint-Germain et des proches du Paris, des présidents des dirigeants du club ont voulu ne pas répondre et ont dit que c'est vraiment une honte que Kylian Mbappé puisse suggérer de telles choses. Et il s'en est pas caché. Hein. La veille de son audience, quand même, ce que je trouve assez... C'est triste d'en arriver là quand même, avec son club de cœur avec lequel on a grandi, on a passé 7 ans arrivé devant une audience, etc., les accuser de plein de choses.
Ce qui s'est passé cette dernière année, c'était quand même incroyable ce qui s'est passé. On va pas refaire tout le récit parce qu'on le connaît. Le loft, la parole donnée de Mbappé à Nasser, etc. Mais comme tu as dit, Philippe,
il
est dans son droit de réclamer l'argent. Il a donné une parole tacite à Nasser Al-Khelaïfi pour s'asseoir du salaire, donc des 55 millions.
En tout cas, ne pas partir en prenant tout et en laissant, soit en renonçant à des primes, soit en rapportant...
Exactement. Ça, c'est ce qui est dit de la part de Nasser Al-Khelaïfi.
Il dit qu'il y a des témoins.
Peut-être que c'est vrai, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des choses faites à Kylian Mbappé... Nasser Al-Khelaïfi, il a quand même voulu ne pas le faire jouer pendant près d'un an. Il était prêt à ne pas le faire jouer.
C'est normal, il est parti libre. Par contre, pour moi, c'est le plus compréhensible de tout ce que tu as dit. Autant les raids numériques, c'est scandaleux et tout. Le fait que l'an dernier, il était dans un loft parce qu'il n'est pas prolongé. Mais ça, c'est la base de tous les grands clubs, ça.
Et pour toi, c'est scandaleux qu'ils partent gratuitement et qu'ils...
Non, non, rien n'est scandaleux pour moi. Tout... Pour moi, c'est juste les réactions des uns et des autres.
Il aurait dû être vendu en 2022.
Ah, moi, je pense qu'ils auraient dû le laisser partir libre en 2022. Ouais. Que ces 2 ans supplémentaires lui ont fait du mal à lui, ont fait du mal au PSG, ont fait du mal à tout le monde.
Mm-hmm. Et, c'était un amour toxique et c'était voué à l'échec. Hein,
c'est un peu ça sur la fin. Mais globalement, si on prend un point de recul, l'année 2024 de Mbappé, elle est très, très difficile. Un euro raté, il voulait sortir par la grande porte avec le PSG. Ça se retrouve avec 2 matchs à Dortmund où il est inexistant. Là, le début de saison avec le Real, quand il commençait à bien enchaîner, à retrouver un bon niveau, il se blesse. Et cette affaire, qui dans tous les cas laissera des traces, je pense, parce que au-delà du fait qu'il soit sorti, vraiment, le fait qu'il ait joué alors qu'il a déclaré forfait, je pense que rien que ça, déjà, ça en avait agacé beaucoup. Donc ouais, je pense qu'il doit en avoir, il doit avoir hâte que l'année se termine.
On espère, en tout cas, bah, pour lui... Et son audience qui aura lieu demain, on en suivra de très près et on en reparlera la semaine prochaine. On va enchaîner avec une petite virgule et on va passer au petit quiz du soir. C'est parti pour le petit quiz du soir. On attend le petit chrono et c'est parti. Qui est le meilleur buteur des Bleus sur cette année civile ?
Colomoigny.
Oui. Avec combien de buts ?
7.
Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit ? 9.
8 avec le deuxième ?
Non.
8. 6.
6.
6, ouais.
Ils ont dit 7, je crois.
Je crois qu'ils l'ont dit 6 tout à l'heure.
Avec aujourd'hui, il était à 4. Ouais, ouais. Et là, avec son doublé de ce soir, il est à 6 réalisations. Depuis quand la France ne s'était pas imposée par plus de 3 buts d'écart ? Là, dernièrement, face à l'Israël, oui. Depuis quand ?
Depuis l'an dernier, là, qu'on avait fait le 10-0, le 12-0.
Le Gibraltar, c'est,
Ouais, c'est bien ça, Philippe. Ouais. Le Gibraltar, et c'était pour la qualification de l'Euro, le 18 novembre 2023.
Un an quasiment.
Voilà. Une petite question encore. Depuis l'Euro 2020, qui s'est joué en 2021 ? Ah, j'ai donné la réponse. Ah. Quand est-ce que la dernière fois que la France a pris un carton rouge dans un match
Ah oui, c'était Koundé, c'est ça.
C'était ça. Jules Koundé contre. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez contre qui ? C'était en qualification de l'Euro.
En qualification de l'Euro.
Oui.
Aucune idée.
Aucune idée.
Jules Koundé avait pris un carton rouge.
Je sais qu'il avait pris un rouge, oui.
C'était face.
Qualification de l'Euro. Alors ils ont joué qui pour se qualifier pour l'Euro ?
Donc 2021, pas le dernier en plus.
Ah oui, 2021.
Période Covid et tout. Ouais. Allez, on a perdu, donne-moi la réponse.
Ouais. C'était face à la Bosnie.
Oh. C'était la Bosnie, ouais.
C'était la Bosnie.
C'est des matchs qu'on oublie en général.
C'est ça.
Mais c'était face à la Bosnie.
Ah ouais. Ah.
Et
Je sais qu'il est pas rouge, je m'en rappelle, ouais. Mais la Bosnie, ouais.
La dernière petite question. Depuis combien de temps la France n'ont pas enchaîné plus de 3 clean sheets consécutifs ?
Ah bah ils l'ont dit ça.
Clean sheet ? Non, ils avaient dit 3 victoires.
C'est 3 victoires, c'est ça, non ?
Il n'y a pas de clean sheet, c'est que des victoires. On a
pris
un but
des victoires. Oui, oui, mais là c'est des victoires. Le dernier les 3 derniers clean sheets remontent à quand ?
Alors là.
Ça a été dit dans le match là tout à l'heure.
Non, il parlait des victoires. Et comme on a pris un but contre Israël, ça compte pas.
Ah oui,
ce soir aussi, ça fait longtemps.
Oula, la dernière des matchs sans.
Ah là, je saurais pas dire.
Non, vas-y.
Allez-y, vous êtes. Peut-être pas très loin.
À l'Euro 2022.
Les 3 premiers matchs de l'Euro, on a pris combien de buts ?
En compétition officielle, hein, bien évidemment.
C'est quoi,
en compétition officielle.
Les clean sheets, c'est ne pas encaisser. Ne pas prendre
de
buts.
Donc c'est pas 2016. Ouais. Bah,
attends,
c'était en qualification de l'Euro.
Ah.
Qualification de l'Euro. Ouais. On n'a pas pris de buts, 3 matchs consécutifs.
Au moins, au minimum.
2005.
Non. C'était
tant. Il y avait l'Israël qu'on avait fait un 0-0. L'Irlande, on avait fait un 0-0. Il y avait un troisième match où on avait fait un 0-0.
Non, mais c'était pas la dernière fois où ils ont enchaîné 3 clean sheets. La dernière fois où ils ont enchaîné plus de 3 clean sheets, ils en ont fait 5. Et c'était face aux Pays-Bas 4-0. Face à l'Irlande 1-0. Face au Gibraltar 3-0. Face à la Grèce 1-0. D'accord. Et encore face à l'Irlande 2-0.
Non, je cherche 3 matchs nuls à 0-0. Ou 3 matchs nuls. Non, c'est bon.
Mais voilà, c'était ça. Ouais. Et les petites questions.
C'est bien.
De ce soir. Merci à vous en tout cas d'avoir été là.
Merci à toi. C'était un plaisir.
On se dit à la semaine prochaine.
Ouais.
Merci à nos chers auditeurs et auditrices. Merci à Léo, à la Réa. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.
Salut, bonne soirée.